André Glades, pseudonyme de Nancy Marie Vuille, Résistance, partie 2, chapitre 7. Après l'explication violente qu'il avait eue la veille avec sa sœur et dont il restait encore étourdi, André Sorin passa la journée à errer par de mélancoliques campagnes. Longtemps, il arpenta à grands pas inégaux des chemins détrempés sous une pluie fine et rare que le vent de mars lui soufflait au visage, tandis qu'à ses oreilles bourdonnaient comme un obsédant refrain les dernières paroles d'Agnès. « Jamais, jamais, je ne l'accepterai jamais. » Il retrouvait le ton de sa voix irritée, le geste tranchant dont elle accompagnait son refus, l'expression dure et fermée de son visage, quand, en le quittant, elle passait droite devant lui, sans un regard. Il entendait ces mots qu'elle jetait sans se retourner. « Non, plus rien, c'est inutile. Je t'ai déjà trop écouté. » Alors, l'injuste cruauté de sa sœur ayant chassé ses derniers doutes, il s'exaltait en pensant à Christine. « Elle est à moi maintenant, bien à moi. Je l'ai conquise. » Et il esquissait un grand geste des bras, comme pour lui offrir un refuge sur son cœur. Puis il cherchait des excuses à l'obstination d'Agnès. Lui-même, malgré tout son amour, n'avait-il pas mis bien longtemps à se rendre? Et comment distinguer la part de la passion dans son revirement? Sa sœur lui avait dit qu'il était ensorcelé. Le souvenir de ce mot amena un sourire involontaire sur ses lèvres. Oh, que le charme était puissant pour le remplir encore de douceur en cette heure si triste. Mais il ne pouvait raisonnablement demander à Agnès de le subir aussi. Haletant, tout en sueur, malgré le froid, d'avoir marché si vite, il reprit haleine en s'arrêtant un instant, le dos appuyé contre un arbre. À ses pieds coulait un ruisselet bourbeux dans lequel s'égouttaient les branches noires. Devant lui, au-delà de champs en friche, s'ouvrait une futaie dépouillée. Et quoiqu'il n'y eût aucune chance de voir soudain Christine apparaître à l'orée de ce bois, il se plut à l'évoquer, venant à lui par les chemins maussades, telle qu'il l'avait un jour rencontrée sous les platanes du Luxembourg, toute mince et blonde, tenant son enfant par la main. De nouveau, la pensée de Christine l'inclina à plus d'indulgence, à plus d'espoir. Tout à l'heure, il voulait fuir le toit paternel comme on s'arrache à de mauvais souvenirs, et sa sœur comme une ennemie. À présent, il se persuadait qu'elle changerait comme lui-même avait changé et ne voulait plus partir sans la revoir. Mais son cœur se serra quand, sur le seuil de sa maison, il dut sonner comme un étranger. La domestique le regarda d'un air chagrin et soupçonneux. Il demanda « Où est mademoiselle ?»« Mademoiselle est au temple. Il y a culte le samedi, à 4 heures. » Elle m'a recommandé de préparer tout ce qu'il faut pour le départ de monsieur. À terre, dans un coin du vestibule, André aperçut sa petite valise qu'on avait descendue sur son ordre. Elle était prête, fermée, bouclée, le parapluie assujetti dans les courroies. Je me demande si c'est Agnès qui s'est chargée de ce soin, pensa-t-il. Et à voix haute, de toute manière, j'attendrai. Il alla s'asseoir au salon où Mademoiselle Sorin se tenait d'habitude et guetta son retour à travers les rideaux de mousseline empesée. Ce salon était une pièce simple, provinciale, démodée, d'aspect austère, aux vieux meubles massifs garnis d'étoffes déteintes et élimées. Il songea que Christine devait avoir été enfant dans un intérieur analogue. et se complut dans cette idée que leurs premiers pas et leurs premières pensées avaient eu des cadres semblables. Jusqu'à présent, sa mémoire ne lui renvoyait du passé que d'heureuses images. Désormais, il aurait sa part de souvenirs désenchantés comme elle. Pensif, il examina les daguerréotypes et les photographies qui décoraient les murs, aux deux côtés de la cheminée, sans retrouver toujours les noms des figures oubliées. Sa mère, qu'il n'avait point connue, son père, mort au moment où il sortait de l'enfance, se faisait vis-à-vis dans des cadres ovales. Il les contempla longuement. Un des pauvres arguments d'Agnès avait été d'invoquer leur mémoire. S'ils te voyaient. Mais de quel droit les morts, ne participant plus à leur lutte, interviendraient-ils dans les affaires des vivants? Et puis, s'ils voyaient, ce devait être avec des yeux spirituels qui pénètrent les vaines apparences. Un léger bruit interrompit sa rêverie. Pâle, rigide et droite dans sa robe noire, Agnès venait d'entrer. Et, tressaillante à la vue de son frère, elle s'était arrêtée à quelques pas de la porte. Des bandeaux gris encadraient son visage incolore, dont la cinquantaine s'était contentée de creuser les rides et de fixer la pâleur. « Tu les regardes, » dit-elle sans bouger. « Est-ce qu'ils te parlent? Est-ce que tu les écoutes ?» André comprit aussitôt combien son espoir était vain. Mais, résolu à ne point recommencer la scène de la veille, il tâcha de répondre avec douceur. « Oui, chère sœur, ils me parlent, et leur langage n'est pas celui que tu crois. Ils me disent que, dans le monde meilleur où ils sont, il y a de l'indulgence pour toutes les erreurs. Ils me disent que beaucoup de nos sévérités sont égoïstes et cruelles, qu'elles viennent de nos passions, et qu'avec plus de bonté, on est plus près de la vérité. » Agnès, qui l'écoutait en pâlissant, l'interrompit avec violence. « Tais-toi, tu blasphèmes. Si tu oses leur prêter de si lâches paroles, c'est que tu es indigne de comprendre le langage d'honneur, d'honnêteté et de vraie justice qu'ils ont toujours parlé. » « Ils me disent encore, » continua André, « que nous sommes maintenant, toi et moi, tout ce qui reste de notre famille, les deux dernières branches du vieux tronc dépouillé, et qu'il ne peut y avoir entre nous ni querelle, ni haine, et qu'il nous faut rester serrés l'un contre l'autre, malgré le malentendu que le temps dissipera. Je souffre de t'affliger, pauvre sœur, mais si tu ne te raidis pas sans vouloir rien entendre, le jour viendra où tu reconnaîtras toi-même combien ta sévérité. » Elle l'interrompit de nouveau, menaçante, presque tragique. « Jamais, jamais je n'admettrai que cette femme puisse être ma sœur. Je ne suis point aveuglée, moi. Plus tard, ah, plus tard, tu pleureras amèrement, parce que le passé ne peut pas se détruire, parce qu'une chose pareille ne peut pas plus s'oublier que s'effacer. Alors tu me retrouveras pour essuyer tes larmes, comme dans ton enfance. Mais d'ici là, je ne veux rien savoir de ta joie, de ta honte. » Elle se retira, le front haut, les yeux secs. Et André, remué de colère jusqu'au fond de l'être, demeura longtemps immobile devant les deux portraits, dont les regards qui lui avaient parlé tout à l'heure se fixaient maintenant, vagues et souriants, dans le vide, et semblaient se désintéresser de sa destinée. Chapitre 8. Il arrive souvent que des décisions devant lesquelles, livrées à nous-mêmes, nous reculerions peut-être, nous sont en quelque sorte imposée par la résistance qu'elle rencontre. C'est ainsi qu'à peine rentré à Paris, Saurin, qui jusqu'alors était demeuré incertain et perplexe, agitant homme dont la résolution est prise. Il écrivit à Christine une lettre qui, bien que les termes en fussent très contenus, ne laissait aucun doute sur ses sentiments, ni sur ses intentions, et il lui demanda un entretien. Un laconique billet, fixant le jour et l'heure, qu'il reçut en réponse, lui causa beaucoup d'émoi et acheva de l'exalter. Il trouva Christine dans son cabinet, assise devant son bureau, sous le reflet d'un soleil rose qui commençait à décroître. Elle se leva et lui parut frêle et affinée, avec un blanc visage pensif. De grands cernes autour de ses yeux disaient qu'elle avait dû pleurer. Il serra sa main légère qui glissa comme une caresse fluide dans la sienne. Et presque tout de suite, trop hanté pour s'attarder à ses propos indifférents dont on aime parfois à retarder l'éclat d'une minute attendue, il lui dit « Je ne vous répéterai pas ce que je vous ai écrit. Vous avez compris ce qui se passe en moi. Vous savez ce qui me ramène ici. Quel sentiment, quelle espérance. Vous savez aussi que j'ai souffert et vous savez pourquoi. » Sa voix inégale s'affermit quand il ajouta « Maintenant, je viens vous demander si vous pouvez m'aimer aussi, si vous voulez être ma femme. » Un éclair brilla dans les yeux de Christine. Elle aurait voulu tomber dans ses bras et lui dire « Oui, je t'aime, parce que tu es bon, parce que tu es généreux, parce que tu oublies. » Mais pendant son court voyage, et depuis la lettre d'André, elle avait beaucoup réfléchi, et il lui semblait qu'entre elle et lui, il y avait trop d'obstacles pour qu'un mouvement de cœur les pût supprimer. « Ne me dites pas que vous avez souffert pour moi, » fit-elle, en évitant son regard, « car j'ai peur de vous faire souffrir encore. Il me semble que j'ai tant de choses à vous expliquer et que chacune de ces choses vous sera douloureuse. » Il crut qu'elle parlait du passé seulement. « Vous n'avez rien à expliquer. Je sais tout ce qu'il faut que je sache. Je sais vos luttes, votre vaillance. Le reste, je veux l'ignorer. » Un sourire de navrante tristesse passa sur les traits de la jeune femme. Ignorer? Ignorer, oui, peut-être, mais oublier. Vous venez à moi dans l'exaltation de votre bonté, de votre tendresse, et pourtant, vous savez qu'elle ne peut rien détruire. Comprenez-vous combien je souffre de devoir apporter à votre amour ce passé? Avez-vous calculé tout ce qui vous le rappellerait sans cesse? Il pèserait sur vous, il pèserait sur nous d'un poids impitoyable. Songez qu'il a fait de moi un être à part, différent de vous, par tout ce que je pense. C'est cela surtout qu'il faut que vous sachiez. Vous croyez sans doute que j'en ai des remords et de la honte. Vous devez croire cela tel que je vous connais. Eh bien non, pas comme vous l'entendez. Sans doute j'ai versé des larmes de sang sur mon irréparable erreur. Mais je l'ai rachetée, je me la suis pardonnée et je n'en rougis plus. Tandis qu'aux yeux des autres, aux vôtres même, il y a une tache sur moi. Je suis très haut dans ma propre estime. Vous ne soupçonnez pas à quel prix j'y suis remontée. Non pas seulement en travaillant pour refaire ma vie et faire celle de mon enfant. Sa voix s'affaiblit et trembla. Mais en acceptant tous les sacrifices qu'exige un tel passé, je me suis souvent répété qu'une femme qui s'est une fois trompée n'a plus qu'à sortir de la vie. Et j'en suis sortie, car je ne vis plus que pour mon fils. Comment donc voulez-vous que je sois votre femme? Doucement, passionnément, comme s'il ne pouvait mieux répondre à cette dialectique qui n'avait servi qu'à lui mieux éclairer l'âme de Christine, Sorin demanda. Dites-moi que vous m'aimez. Cette question la bouleversa, renversant d'un seul coup l'échafaudage de ses raisonnements et de ses résolutions. Sorin, déjà, serrait ses mains défaillantes qu'elle tordit sous l'étreinte. Comprenez-moi, comprenez-moi, s'écria-t-elle, sans plus mesurer le sens de ses paroles incohérentes. Je ne demande ni pardon ni pitié. Je n'ai jamais trahi personne. Je ne dois de compte qu'à moi-même. C'est moi seule que j'ai immolé. Si je me repens, c'est de m'être trompée, pas de m'être donnée. Car je l'ai aimé, cet homme. J'ai cru l'aimer. Sorin recula comme frappé d'un coup brutal. Touchée au cœur de voir sa figure se contracter de douleur, elle reprit toute frémissante. Pardonnez-moi de vous avoir fait ce mal. Mais il le fallait. Je savais bien, voyez-vous, que ce n'était pas possible. Je savais bien que l'obstacle est toujours là. Vous m'aimez, je vous aime. Oh, je peux vous le dire à présent. Et nous ne pouvons pas être l'un à l'autre parce que... Mais Sorin était à ses pieds. Non, 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 cria-t-il avec passion. Tout ce que vous dites là, ce sont de vaines paroles. Je comprends, et j'aime tout de votre souffrance. Mon amour sera plus fort que vos scrupules, plus fort que le passé, plus fort que tout. Vous serez à moi, vous serez ma femme, et je ne veux plus vous entendre parler contre vous-même. Et je veux vous faire un avenir si beau que vous oublierez tout ce qui n'est pas nous. Dites-moi, dites-moi, dites... Elle l'écoutait transfigurée. Que vous êtes bon. Un amour comme le vôtre rachète la douleur de toute une vie. Il donne aussi la force de refuser un tel sacrifice. N'oubliez pas que vous avez tout près de vous des affections qui doivent vous rester chères. Et si je vous disais que je n'ai plus d'affection que la vôtre? Votre sœur qui vous aime, que vous aimez, ne m'accepterait jamais. Ma sœur et moi, nous ne nous entendons plus. Vous n'avez rien à redouter de personne. Je suis libre, libre et seule comme vous. Si vous me repoussez... Elle se tourna vers lui, effrayée. Seul, répéta-t-il avec insistance. Vous voyez bien qu'il faut que vous soyez à moi. Oh, si vous avez déjà souffert pour moi. Elle se laissa tomber dans un fauteuil et pleura. Chapitre 9. Une des dernières promenades qu'ils firent avant leur mariage fut à Saint-Germain, pour conduire François chez la brave femme qui avait pris soin de sa petite enfance et qui devait le garder pendant les quelques jours que sa mère passerait à Bellegue. Car Christine, en annonçant ses projets à ses parents, leur avait demandé la permission de venir leur présenter son fiancé. Leur réponse, bien que froide, ayant été favorable, elle se disposait donc à partir. André la rejoindrait sans tarder. Ensuite, ils rentreraient ensemble à Paris. Au moment de dire adieu à son fils, la jeune femme le rappela sur ses genoux, l'embrassa et, les bras noués autour du petit corps fluet, s'enfonça dans un silence un peu triste. François avait le cœur gros. Ce fut Sorin qui tenta de le consoler. « Mais tu vas t'amuser beaucoup ici, mon gaillard. Il y a des vaches, il y a des poules, il y a un chien. Tu verras ça. Et puis, je viendrai te voir encore une fois. »« Vrai ?» fit le petit dont le visage s'éclaira. « Quand ? Jeudi ?»« Va pour jeudi. Je te promets une promenade à Arles, à condition que tu ne pleures pas. Tiens, regarde. Voici maman Gros qui vient te chercher. » Pour donner à manger au poulet. Cours, chérie, va vite, dit à son tour Christine en l'embrassant pour la dernière fois. François, la main dans celle de la paysanne, s'éloigna du côté de la basse-cour, en se retournant encore une fois pour faire un signe d'adieu. Christine le quittait pour la première fois. Aussi se sentait-elle prise d'une de ces inquiétudes sourdes dont les peines de sa vie avaient déposé le germe au fond d'elle. Un instant, elle le suivit des yeux, puis ramena ses regards sur André qui semblait pensif. Et, cédant au besoin d'être rassurée, elle lui demanda tout bas « Vous aimez bien mon fils, n'est-ce pas ?» Il devina le frisson des anciennes méfiances qui passaient sur elle. « En doutez-vous » fit-il. Elle hésitait et, les yeux baissés, jouait avec son ombrelle. « Non, je n'en doute pas. Je sais que vous êtes bon. Pourtant, convenez que vous avez eu de la peine. « Eh bien non, » dit-il avec une franche simplicité. « Oh, je n'y ai pas grand mérite. » Et sans les circonstances, j'aurais eu peut-être à lutter contre de mauvais sentiments. Mais quoi? J'ai appris à le connaître en le voyant souffrir, ce pauvre petit bonhomme. Il a mis avec confiance sa main dans la mienne. Il m'a pris en affection. Alors je l'ai aimé sans m'en apercevoir. Voilà tout. Et puis, il vous ressemble tant. Sans répondre, d'un de ces mouvements d'abandon dont elle reprenait avec lui la douce habitude, Christine vint glisser son bras sous le sien. Par-delà la haie vive d'où s'élançaient des pousses folles, tous deux regardèrent François, qui, sans les voir, debout sur la saillie d'un mur, bien campé sur ses longues jambes fines, la tête rejetée en arrière dans l'encadrement blanc de son grand col de marin, faisait voler le grain blond sous ses doigts. « Je vous le donne, » dit Christine avec émotion. « Je vous promets d'être un bon père pour lui, » répondit André gravement. Elle envoya un dernier geste d'adieu à l'enfant qui ne la voyait pas, tout absorbé par ses poulets, et ils se dirigèrent lentement du côté de la terrasse. Sous les pas de la jeune femme, se levaient de place en place les souvenirs de la même promenade qu'elle avait faite 9 ans auparavant avec son père. Le large horizon, le ciel pâle, les bouquets de bois dévalant au flanc des coteaux, les toits éclos à travers la verdure, peut-être un peu plus nombreux, le ruban capricieux de la Seine, composaient sous ses yeux le même paysage, recréaient la même atmosphère. Mais elle s'y mouvait avec une âme nouvelle, et son attendrissement de leur présent, changeant la teinte de ses souvenirs, elle dit à son amie « Vous ne pouvez vous imaginer combien mon père, ce jour-là, a été bon. Pour la première fois, j'ai osé lui parler avec abandon, avec confiance. Il semblait me comprendre. Aussi, elle n'acheva pas d'exprimer sa pensée, qu'elle reprit sous une autre forme en l'atténuant. « J'ai un peu peur de retourner chez moi. Peut-être aurais-je mieux fait de ne pas raviver des impressions que le temps a effacées. Il vous serait toujours resté comme un poids sur le cœur, le regret d'une dernière tentative que vous auriez pu faire et que vous n'auriez pas faite. Mais promettez-moi, quel que soit le résultat de l'épreuve, de ne pas vous attarder à de vaines tristesses, de marcher vers l'avenir sans arrière-pensée. Quand je pense à cela, dit-elle, je me sens faible et meurtrie. Que voulez-vous que j'y fasse? M'aimeriez-vous autant si je pouvais sentir autrement? Je ne puis oublier les premières tendresses. Dans ce passé qui se détache, il y a toute une partie de moi. Le commencement de ce que je suis, mes premières joies, mes premiers chagrins, mes souvenirs d'enfance. Il y a des affections qui peuvent mourir et que rien ne remplace. Il y a ma petite sœur Marthe, que je ne puis me rappeler sans un serrement de cœur. Elle a aujourd'hui l'âge que j'avais alors, et peut-être a-t-elle besoin d'une amie. Je me reproche comme une trahison d'avoir ainsi disparu de sa vie. Vous allez la revoir? La revoir, oui. La retrouver, qui sait, car, voyez-vous, elle s'interrompit et continua pourtant. Au lieu de se rapprocher, on s'éloigne. Lui a-t-on parlé de moi? Je ne sais pas. Et que lui a-t-on dit? Ses yeux étaient pleins de tristesse. Devinant qu'elle lui cachait quelque chose, André demanda « Qu'y a-t-il dans la lettre de vos parents qui vous chagrine et que vous ne m'ayez pas dit ? Savez-vous que pour une femme indépendante ?» Elle répondit à sa question sans lui laisser achever une phrase qu'elle connaissait déjà, car il se plaisait à la taquiner parfois sur l'impressionnabilité toute féminine qu'elle avait gardée à travers sa carrière. Oh, rien de particulier. On m'attend, cela va de soi. L'on compte aussi sur votre visite. Mais... Elle se serra contre lui dans un appel spontané de tendresse, tandis que sa main, restée libre, serrait la lettre reçue la veille, qu'elle n'avait pas encore eu le courage de montrer à son amie. « Lisez, » dit-elle enfin. Il lut, froissé comme elle, de l'affectation d'indifférence que dégageaient ces lignes sans affection. Christine, le regard vague, contemplait le ciel où s'amassaient de brillants nuages d'or. Comme il lui rendait, sans mot dire, la lettre pliée, elle murmura, peut-être pour s'en persuader, « Je suis sûre que mon père et ma mère se sont concertés pour écrire cette lettre. Séparément, ils auraient trouvé des paroles meilleures. Ensemble, ils ont eu peur de pécher par trop d'indulgence. Ils ont voulu rester sévères. » Ses yeux levés vers André mendiaient un acquiescement. Mais il était lui-même sous le coup d'une impression toute pareille. Et, pensant à sa sœur, qui avait repoussé une dernière tentative, il sentait gronder en lui une révolte irritée contre la dureté des juges implacables, dont la règle ne fléchit jamais, qui ignorent le pardon et que leur sécheresse d'âme pousse à l'injustice. « Ne vous affligez pas, » dit-il presque durement. « Oui, sans doute c'est douloureux, c'est cruel, c'est injuste surtout. Ayez le courage d'y penser sans regret, comme sans colère, ayant la volonté d'être heureux. » Au ton de sa voix qui s'attendrissait, plus encore qu'à ses paroles, Christine comprit qu'il souffrait d'une même blessure. « Votre sœur ? » demanda-t-elle. Après un court silence, il répondit. « Je vous dis que nous serons seuls. » De nouveau, elle se rapprocha de lui, dans un mouvement d'émotion affectueuse et profonde. Ils ne parlaient plus. Ils pensaient ensemble. Que de meurtrissures autour de leur vie. Quel vide l'amour créait autour d'eux. Pourtant, l'avenir ne les effrayait plus. Chapitre 10. Christine revit la maison paternelle. Son télégramme n'étant pas parvenu, elle ne trouva personne pour l'attendre à la gare, et seule, elle dut traverser la ville sous l'œil indifférent des boutiquiers qui, le soir tombé, devisent au frais devant leur porte. À cause de l'établissement thermal, il passait en été dans la paisible ville tant de figures diverses que les habitants avaient depuis longtemps cessé de s'étonner. D'ailleurs, la simple toilette de Christine n'avait rien qui frappât les regards. Depuis 10 ans, son histoire aux trois quarts oubliée était devenue à peu près légendaire, compliquée de commentaires fantaisistes. Il arrivait parfois que, dans le menu peuple, on tînt des propos comme ceux-ci. « Vous savez, les Niels, Ils ont une quatrième fille, l'aînée. Mais personne ne la voit ni ne sait ce qu'elle fait. Il paraît qu'elle est allée à Paris et qu'elle a mal tourné. Attendez, non, c'est une autre histoire. Elle a épousé, contre le gré de ses parents, un Américain millionnaire qu'il a abandonné ensuite avec quatre enfants dans une misère noire. Ah, on m'avait bien dit qu'elle avait été enlevée, mais par sa marraine, une espèce de cosaque qui l'a séquestrée en Russie et lui a fait subir toutes sortes de mauvais traitements. Quel conte à dormir debout! Moi, je tiens de sources certaines qu'elle est médecin en chef d'un grand hôpital à Paris. Les gens de la société, à peine mieux renseignés, ne prononçaient son nom qu'en l'accompagnant de petits sourires équivoques ou apitoyés. Au fond, personne ne savait. Ses parents ne parlaient jamais d'elle. Le temps avait fini par cicatriser la blessure, mais en rompant les derniers liens. La jeune femme ne tarda pas à se convaincre que l'indifférence qu'on lui témoignait était réelle et non feinte, et que sa visite apportait, en somme, plus de gêne que de plaisir. Elle s'étonna de se trouver elle-même si peu d'émotion, de n'éprouver surtout aucun ressentiment, aucune amertume, à peine un regret mélancolique de ses impressions d'autrefois. Tout cela lui semblait si loin d'elle. Elle ne pouvait en vouloir à ces êtres qui, pourtant, lui restaient chers de ce qu'ils parlaient un langage différent. Car, au milieu du décor immuable, cantonné dans le cercle restreint de leur vie, sauf l'inévitable transformation des années, ils avaient, au fond, peu changé. Tout blanc maintenant, les épaules voûtées, le docteur Niel demeurait égal à lui-même. D'une bienveillance trop réservée, affectueux sans expansion, comme retenu par une chaîne invisible qui paralysait son âme et ses gestes. Madame Niel, dont de nerveuses migraines altéraient la santé, s'était déchargée sur Élise des soins du ménage. Inactive maintenant, d'une humeur inquiète, triste, presque farouche, elle semblait reprocher aux autres l'oisiveté forcée à laquelle la condamnaient ses maux, et ne parlait presque plus que sur un ton aigre de perpétuel mécontentement. Froide, vigilante, méthodique, économe, Élise gouvernait la maison qui pliait sous son despotisme et surveillait sa sœur cadette avec une précision d'institutrice plutôt maussade. C'est à peine si Christine reconnut sa chérie d'autrefois dans la grande jeune fille de 18 ans qui la dépassait de la tête, rougissante et timide, jolie à force de fragilité, dont les 12 yeux de pervenche révélaient des questions pleines de mystère, et qui cependant n'osait plus lui parler. Quant à Berthe, elle ne la vit qu'une fois. Et encore ne sut-elle jamais si l'intérêt ou la curiosité avaient motivé sa visite. C'était une assez belle créature, aux chairs blanches, indolente, très fière d'avoir été distinguée par un hobereau du voisinage, et dont la conversation remplie de réticence fit entendre à sa sœur qu'elle la dispensait volontiers de venir chez elle. Étrangère désormais chez des étrangers, et dans le désœuvrement des longues journées vides, la jeune femme attendait avec une croissante impatience, qui peu à peu devint douloureuse, l'ami dont le premier regard dissiperait sûrement ses tristesses. Le matin où il devait arriver, elle descendit de bonne heure au jardin. Ce même jardin en pente douce, d'où le regard dominait le panorama magnifique de la plaine, enserré dans sa ceinture de montagne. Elle avait besoin de confier sa joie, et les fleurs seules lui semblaient amicales. Heureuse, elle se promena le long des allées. entre les plates-bandes rectangulaires bordées de buis, où s'épanouissaient encore les fleurs démodées des parterres de campagne. Passereuses émergeant du sol, de distance en distance, avec une grâce raide de bâtons enguirlandés. Volubilis aux tons éclatants, capucines de velours rouge ou jaune. Buissons de phlox, fleuris en boule, ou d'althéas en larges corolles, ouvertes sur un cœur d'incarnat. Au-dessous, frémissaient des pieds d'alouette, tout un vol, mélangé de rose, de violet et de blanc, et des pavois aux tendres soies, plissés sur un cœur noir. Des églantines écloses dans la nuit couvraient un arbuste de leur neige parfumée. Christine voulut suivre le sentier jusqu'au bout pour revoir les jardinets qu'elle et ses sœurs possédaient autrefois en propre. À leur place, il y avait maintenant une aspergerie de plantations récentes. Elle se rappelait le terrain carré tel que le partageaient jadis deux lignes en croix de cailloux blancs, et sourit à ce souvenir. Déjà, dans le libre emploi que faisait chacune des fillettes de son minuscule coin de terre, on aurait pu recueillir des indices sur sa personnalité naissante. Le jardin de Christine se distinguait par des cultures variées et hardies. Tour à tour, elle avait essayé d'acclimater un oranger, un laurier rose, des lys martagon, sans succès. Mais ses rosiers prospéraient et elle se souvint d'un petit abricotier élevé avec beaucoup d'amour qu'un vent d'orage avait cassé en la saison où rougissait son premier fruit. Ce qu'Élise entreprenait réussissait car elle n'avait que des idées sages. Au temps des fraises, elle apportait sa récolte à sa mère qui la lui achetait au cours du jour. Berthe, l'indolente, laissait envahir son sol par les mauvaises herbes, sous prétexte qu'elles fleurissent aussi. Marthe, toute petite et naïve, plantait en terre les fleurs coupées pour leur sauver la vie, disait-elle, et s'affligeait de les voir mourir. Comme, à pas lents, elle remontait l'allée, Christine aperçut son père qui, les mains dans ses poches, s'avançait dans sa direction. Il ne la vit que quand il fut tout près d'elle, trop tard pour esquiver un tête-à-tête dont il redoutait l'embarras, et jeta cette exclamation. « Déjà levé? » Il ajouta en s'aidant d'un demi-sourire. « Allons, je vois que tu n'as pas perdu tes bonnes habitudes de la campagne. « Je ne suis pas toujours aussi matinale, répondit-elle. Mais aujourd'hui, je ne pouvais tenir au lit. » Il ne lui demanda pas pourquoi. Machinalement, il s'était remis à marcher et elle l'accompagna. « Tu regardais ma plantation d'asperges, » fit-il, en s'arrêtant près de l'enclos. « Elle est de l'année dernière. Dans 2 ans, elle rapportera. » « Oui. Et je pensais à nos jardinets d'autrefois. » « Ah, c'est vrai, c'est là que vous vous amusiez quand vous étiez petite. Mais qu'il y a longtemps, tout cela me fait vieux. » Il soupira, parut s'enfoncer dans une rêverie. Sa fille, doucement, lui posa la main sur le bras. Il tressaillit, ne la repoussa point, mais ses yeux prirent en se fixant sur elle cette expression de tristesse et de blâme il avait souvent maintenant en la regardant, et où elle aimait à lire comme un retour de l'ancienne affection. « Allons, » murmura-t-il. Le bruit strident d'un sifflet déchira l'air derrière eux. Ensemble, ils se retournèrent. Un train, l'express de Paris, passait à toute vitesse, sa blanche fumée floconnant dans l'azur. Christine pâlit et ses paupières battirent. « J'espère que tu seras heureuse, » dit enfin son père à voix basse. Ce fut tout, car Élise, qui venait d'apparaître sur le seuil de la véranda, en agitant la cloche du déjeuner, leur lança un coup d'œil soupçonneux. Et le docteur, baissant sa tête blanche, hâta le pas, comme pris en faute. 2 heures plus tard, André se présentait. Il fut accueilli avec une politesse cérémonieuse et gourmée, qui écartait d'emblée toute tentative d'intimité. Pourtant, Christine crut discerner, à travers la raideur voulue de ses parents, qu'ils éprouvaient une surprise agréable. Sans doute avait-il craint que leur fille ne leur amenât quelque révolutionnaire, imbu d'idées ultramodernes, ou quelque bohème aux longs cheveux. Il fallut le sérieux de Sorin, la modération de son langage, la froideur même de ses manières, pour les rassurer tout à fait. Une contrainte pesait néanmoins sur les deux jeunes gens, et vers la fin de l'après-midi, Christine fut heureuse d'emmener son amie dehors, dans l'espace. Sans se parler, ils marchèrent sur la grande route, grise de poussière. La journée était exquise et pure. Une brise légère tempérait l'ardeur du soleil, dont les rayons, d'ailleurs, ne devaient pas tarder à décroître. « Allons sur la montagne, » proposa la jeune femme. « Nous avons le temps d'arriver, avant le soir, à Fontaine-Napoléon, à mi-chemin de la Faucille. Et c'est une belle promenade. » Du geste, elle désignait tout en haut deux pointes inégales, couronnées de sapins, qui se recourbaient sur le grand vide bleu. Ainsi, s'éloignant de la ville, ils prirent la route facile qui, de lacet en lacet, s'élève jusqu'au col, tel un large ruban. André voulait à chaque instant s'arrêter pour admirer le panorama de la plaine qui se déroulait graduellement. Mais Christine l'en empêchait. « Non, disait-elle, non, attendez, réservez-vous le plaisir tout entier. » Bientôt, sous prétexte d'ascension plus rapide, elle lui fit gravir des pentes raides où de gros cailloux s'éboulaient sous leurs pieds. Et, toute sa gaieté revenue, elle riait de le voir, peu expert à ce genre d'exercice, se raccrocher des deux mains à de tenaces arbrisseaux rabougris. Puis vinrent des intervalles gazonnés, émaillés de fleurettes aux dures couleurs, doux comme du velours, perfides et glissants. Parfois, la sente invisible disparaissait dans le sous-bois, et ils se frayaient leur chemin dans le fouillis des hêtres, des sapins et des chênes, à travers des fougères et de hautes herbes, où ils enfonçaient jusqu'à mi-jambe. Soudain, ils reparurent dans la pleine lumière, sur la grande route retrouvée, et, grisés de l'air plus vif qui essuyait la sueur sur leur front, ils se sentirent l'âme en fête. « Nous arrivons, » dit bientôt Christine, en lui montrant au tournant de la route une fontaine creusée dans le roc. Le site était charmant. Au-dessus de l'encadrement de pierre, frangé de mousse humide, des sapins s'élevaient en diadème, dardant leurs cimes effilées comme autant de fleurons. La forêt recommençait plus haut, épaisse et enchevêtrée. Christine, devançant son compagnon qui s'arrêtait pour s'éponger, courut s'asseoir sur la margelle et remplit au jet irisé qui bouillonnait du goulot une petite tasse de cuir qu'elle lui offrit quand il la rejoignit. Ils avaient chaud. Ils firent couler sur leurs doigts l'eau glacée. Un instant, ils s'amusèrent à comparer leurs mains qui prenaient des pâleurs d'albâtre sous le cristal de la fontaine. Puis, riant de leur enfantillage, ils cherchèrent, pour s'asseoir, l'ombre d'un noisetier à la lisière d'un pré. Et Christine dit à André, « Maintenant, regardez. » Au-dessous d'eux, la plaine s'étendait, immense, dans son cercle gigantesque de montagnes, toutes dorées sous l'éblouissante splendeur des rayons. Des bourgs, des villages, des hameaux l'attachaient çà et là de blancheurs éparses. Détachant sa masse grise sur sa colline violâtre, une grande ville gardait l'extrémité d'un lac qui, d'abord rétréci, s'évadait plus loin, brusquement élargi en une nappe de saphir, liséré de l'émeraude des rives, brodé du vol argenté des barques, et se diffusait ensuite en une vapeur d'opale. Les Alpes, au dernier plan, emplissaient l'horizon. Leurs sommets, émergeant un à un de la chaîne neigeuse, s'empourpraient lentement. Roi magnifique, couronné de flammes d'or, le Mont Blanc s'élevait sur ses cimes altières, comme sur un peuple de blanches vassales. À droite, cependant, le Jura prolongeait sa ligne austère, rompue sous les cassures d'un voile bleuâtre. De toutes ces montagnes, de ce ciel en incandescence, des jeux de la lumière sur cette plaine verte et blonde, sillonnée en tous sens par les rubans de ses routes, fertiles et riches, où abondait la vie, une couleur si intense se dégageait, qu'André, pris de vertige, ferma les yeux. Puis son regard s'accoutuma. Il finit par embrasser sans fatigue le vaste panorama où la jeune femme, sur sa demande, mettait des noms. Dans quelques instants, dit-elle, vous verrez l'Alpenglune, c'est-à-dire que les montagnes seront toutes roses. Attendons. Comme ils attendaient, silencieux, dans la paix ineffable de la fin du jour, André découvrit tout à coup, à leurs pieds, sur un mamelon détaché de la base du Jura, Bellaigue, la petite ville toute noire, toute étroite, toute ratatinée, avec le fil d'argent de sa rivière, fuyant à travers les saules vers la plaine. Vous regardez Bellaigue, dit Christine, en suivant la direction de ses yeux. Il répondit d'un signe. Elle continua. Cela vous semble bien petit, n'est-ce pas? Et de là-haut, du col, cela paraît plus petit encore. Et des Alpes, là-bas, son geste dépassa la plaine, cela ne s'aperçoit même plus. Pourtant, si vous saviez, tout ce qu'il peut tenir de tristesse et de peine dans un si petit endroit. Les chaînes y sont aussi fortes qu'ailleurs, plus fortes peut-être. Il y a des poids qui les aggravent, des cadenas qui les rivent. Je regarde cela de la hauteur où nous sommes, et je pense aux larmes que j'ai versées, à celles que j'ai fait couler, à l'affection de ceux qui m'ont aimée à leur manière, que j'aime encore, sans que nous puissions nous comprendre. Je pense à tout, tout ce qu'il y a de mystérieux dans une simple vie comme la mienne, comme la nôtre. Elle baissa la voix pour ajouter, et il me vient une crainte affreuse, celle de ne pas vous rendre assez heureux. Il l'attira contre lui en murmurant, taisez-vous. Elle appuya ses mains jointes sur l'épaule d'André et sa tête sur ses mains. Ils restèrent longtemps ainsi, sans bouger. Puis il dit à son tour, « Nous sommes très loin de Bellaigue, très loin des autres, très loin de tout ce qui n'est pas nous. Qu'importe ce qu'il y a sous nos pieds, naissons joyeusement à la vie nouvelle. » Les montagnes étaient toutes roses. Le ciel d'azur, sans un nuage. La grande ardeur du soleil apaisé, l'astre mourait dans le recueillement, tandis qu'autour de lui se levaient les violettes du crépuscule. Mais son reflet restait clair, immuable et serein.